Dans les sociétés de type chamanique, il y a très souvent des peintures, des gravures, des sculptures rupestres, dans la mesure, évidemment, où il y a des parois. Quand vous êtes dans le cœur de la Sibérie, ben, des parois, il n'y en a pas beaucoup. Donc, des peintures rupestres, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai vu au fin fond d'une forêt près de l'Angara, une sculpture qui est grande à peu près comme ça, qui est à peu près dans les 2000 ans. Mais c'est quelque chose d'assez unique. Et mes collègues l'ont trouvé il y a une vingtaine d'années, parce que c'est un endroit vraiment épouvantable. Enfin, pour y arriver, c'est... N'en parlons pas. Et on était allé en été. Et alors, en été, le grand problème, c'est les moustiques. On ne peut pas imaginer. Oh, moi, on me l'avait dit. Hein. Donc, j'étais arrivé préparé. Hein. C'est-à-dire que j'avais une voilette qui me couvrait complètement. J'avais des gants. J'étais couvert de pied en cap. Donc, je n'ai pas été piqué par les moustiques. Mais si vous allez comme ça, il y a des nuages et des nuages de moustiques. C'est-à-dire que dans le dos, à n'importe quel moment, vous avez 60 ou 80 moustiques qui sont posés. Quoi. Donc, si vous êtes légèrement vêtu, croyez-moi que vous souffrez. Et alors, quand on y est allé, on était accompagné par un chaman, et ce chaman m'a montré quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, parce que je fais la comparaison avec la préhistoire. Chaque fois j'ai dit ça, eux, ils avaient aussi des trucs comme ça. Il était en chemisette, alors il voyait que moi j'étais hyper couvert, quoi. Alors ça l'a fait rire. Alors il était en chemisette, les bras nus. Il m'a mené près d'une grande fourmilière. C'est comme on en a dans les bois ici, une fourmilière grande comme ça. Et il a fait ça. Il a tapé trois fois sur le sommet de la fourmilière. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Alors, j'étais tellement surpris que je n'ai pas fait de photo, là, parce que je ne comprenais pas du tout ce qu'il faisait. Alors, il tape comme ça, sur le sommet de la fourmilière. Et puis, il passe ses bras comme ça, ses mains. Et puis, il s'enduit le visage. Et là, j'ai compris. En tapant comme ça, il avait agressé les fourmis. Les fourmis ont réagi en dégageant de l'acide formique. En mettant ses mains juste à côté, il a récupéré l'acide formique. Il se l'est mis sur les bras, le visage et dans le cou. Et après, avec un gros sourire, il m'a monté à regarder. Moi, je n'ai pas besoin de voilette, hein. Il faisait comme ça, il y avait des moustiques qui tourbillonnaient autour, il n'y en avait aucun qui se posait. Alors là aussi, je me suis dit, tiens, à la préhistoire, il a dû y en avoir des astuces de ce genre qui se sont perdues. Alors, l'art. En ce qui concerne l'art, qu'est-ce que nous avons dans l'art préhistorique qui puisse se rapporter ou non au chamanisme ? Il faut être très prudent dans ce cas-là, parce qu'on ne peut pas avoir... C'est pas parce qu'on va voir dans une culture chamanique tel dessin et qu'il y en a un qui lui ressemble un peu dans l'art préhistorique qu'on va dire que c'est exactement les mêmes histoires. Les histoires en détail, on ne peut pas les avoir. Mais on peut essayer de cerner des modes de pensée. Alors, vous avez plusieurs lignes de recherche. Une, ce sont les représentations elles-mêmes. On a, dans l'art préhistorique, dans l'art des cavernes, un certain nombre de représentations d'êtres composites, c'est-à-dire qui ont des caractéristiques à la fois humaines et animales, ce qu'on appelle les sorciers. Et ça, c'est typique du chamanisme. C'est ce que je disais sur la fluidité, c'est-à-dire des gens qui peuvent être à la fois humains et animaux. Deuxièmement, vous avez très souvent des représentations qui utilisent des contours naturels. Pourquoi ? Parce que quand les gens allaient dans les grottes profondes, ils considéraient le monde surnaturel, le monde souterrain, comme un monde surnaturel. Pourquoi peut-on dire ça ? Parce qu'on le trouve dans le monde entier. Dans le monde entier, les cavernes profondes, l'obscurité totale, c'est considéré comme un monde surnaturel. Vous l'avez partout. Rappelez-vous la mythologie classique, hein, le Styx, Charon, etc. Les enfers se trouvent dans une grotte profonde. Le Styx est une rivière souterraine. Mais vous l'avez partout. Vous l'avez chez les Mayas, vous l'avez en Australie, vous l'avez partout. Donc si on l'a partout, considérer la caverne comme un monde de l'au-delà, on peut très bien l'extrapoler à la préhistoire. Et lorsque les gens y vont, comme les Mayas, ils y vont dans un but précis, c'est-à-dire capter une parcelle de ce pouvoir surnaturel au moyen de cérémonies appropriées. Et quand ils peuvent se dire, attention, attention, hein, c'est un endroit où il y a les esprits, les morts, les dieux, etc. Il ne faut surtout pas y aller, c'est vachement dangereux. Ça, c'est une attitude qu'on trouve très fréquemment. En Inde, par exemple, où je travaille, eh bien, il y a beaucoup d'abris avec des peintures. Lorsque l'abri se prolonge par une grotte, dès que vous quittez la zone de lumière, il n'y a plus de dessin. Les gens n'y vont pas. Donc, dans ce cas-là, l'état d'esprit est le même au départ, mais la conséquence qu'on en tire est tout à fait différente. Et dans ce milieu surnaturel, les gens s'attendent évidemment à voir les esprits. S'ils y vont pour entrer en contact avec les esprits, ils s'attendent. Et ils les voient. N'oubliez pas que ce qu'ils avaient pour s'éclairer, c'était des torches ou des lampes à graisse qui jettent des lueurs plus ou moins faibles, qui font bouger et vivre la paroi. Et avec les reliefs de la paroi, eh bien, ils voient les esprits. Et dans l'art préhistorique, il y a une très, très forte proportion d'animaux qui sont dessinés à partir de reliefs naturels des parois. De même qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont dessinés comme s'ils sortaient de la paroi. Et c'est le même état d'esprit. Ils sont là dans la roche et ils en sortent et on entre en contact avec eux. Alors, il y a encore d'autres choses. Il y a des gens qui placent des petits bouts d'os dans les anfractuosités de la paroi pour entrer en contact avec ces esprits ou qui mettent leurs mains ou qui font des ponctuations. Tout cela, c'est bien connu en milieu chamanique. Moi, je l'ai vu en Inde également. Encore de nos jours, hein, où il y a des gens qui vont dans des abris et ils font soit ce que nous, on appelle des mains négatives, mais eux, ils n'y vont pas pour faire une main négative. Ils se mettent de la peinture. La peinture est sacrée. Hein, elle est chargée de pouvoir. Ils se mettent la peinture sur la main, ils appliquent la main sur la paroi, quelquefois sur des peintures. Hein. Et pourquoi ? Parce que la peinture, c'est établit le contact avec le monde surnaturel. Oui. Il se branche, comme vous branchez une prise. Il se branche sur le monde surnaturel grâce à la peinture. Et pour en retirer du pouvoir, quelquefois, c'est avec le doigt. Ils prennent de la peinture sur le doigt, ils touchent. Et ça fait penser, évidemment, aux ponctuations qui sont si nombreuses dans nos grottes. Voilà, très rapidement résumé ce qu'on peut en dire pour le moment, si vous me posez des questions, et je ne veux pas être trop long, et je vais vous montrer les photos, les diapositives. Alors, attends, comment je fais pour les passer je vais appuyer sur un bouton, ça marche. Hein. Oui. Alors, on va commencer par les représentations d'êtres composites, c'est-à-dire des êtres qui sont à la fois humains et animaux. Ça, c'est une statuette en ivoire qui date de l'Aurignacien, hein, ça, c'est quelque chose qui a 35 000 ans, qui vient d'un abri du Jura Souabe, le Hollenscheinstadel, qui est en Allemagne, et qui représente un homme à tête de lion. Et depuis que ça avait été trouvé avant la Seconde Guerre mondiale, et depuis, un de nos collègues, Nicholas Conned, dans un autre petit abri de la même région, il a trouvé un autre qui n'est pas plus grand que ça, mais qui représente le même thème, un homme à tête de lion. Non. Eh bien, je ne sais pas. Ah ben oui, je l'ai trouvé. Ce n'était pas le premier. Alors, voilà, ce qu'on a appelé le sorcier de Gabillou. Gabillou, c'est en Dordogne, à Mussidan. Et ce sorcier de Gabillou est tout à fait au fond de la grotte et il représente un homme avec des jambes et un bras humain, une queue animale et une tête de bison. Alors, on en connaît un certain nombre. Et ça, c'est le sorcier et trois frères dans l'Ariège, le grand sorcier et trois frères, qui a été dessiné à 3,50 m d'eau. Ça, c'est un relevé de l'abbé Breuil. Qui a été dessiné à 3,50 m de haut et qui domine ce qu'on appelle le sanctuaire, où il y a des centaines et centaines de gravures. Alors lui, c'est un homme, mais il a des oreilles animales, des bois de renne, des pattes de lion et une queue de cheval. Donc lui, c'est vraiment un être très, très composite. Alors ça, c'est moins bien connu. C'est dans la grotte Chauvet où nous avons un corps de femme, le bas du corps d'une femme ici, vous voyez, avec le triangle pubien et la vulve, qui est bien indiqué, une jambe ici, l'autre jambe là. C'est sur un pendant rocheux, tout à fait au fond de la grotte. Et au contact de ce bas de corps féminin, il y a un bison, vous voyez le bison, bon, avec les cornes, hein, et le bison a un bras et une main humaine. Vous voyez, la main est représentée comme toujours en préhistoire, comme ça. Elle est représentée comme ça, pendante. Et ça, c'est typique de la représentation de la main. C'est pas du tout une patte de bison, hein. Regardez, c'est ça, hein. Oui. Bon, ça, c'est la grotte Chauvet en Ardèche, et ça, ça date de 36 000 ans, hein. Et là, nous, bon, hein, bon, Lascaux, mais c'est également, cet homme est un homme composite, puisqu'il a une tête de. C'est un homme, et il a une tête d'oiseau qui est identique à cet oiseau-là. Alors, celui-là, c'est un pêche-merle. C'est également un homme à tête d'oiseau, ici, vous voyez, très particulier, et il est percé de flèches. Là, c'est l'image de la mort. Alors, dans beaucoup de sociétés chamaniques, la mort et la transe sont liées, parce que quand on est en transe, l'âme sort du corps, est censée sortir du corps, comme dans la mort. Donc, la métaphore de la transe, souvent, c'est la mort. Alors, est-ce que là, ça représente véritablement la mort de cet homme ou est-ce que ça représente la transe? Ça, évidemment, on n'en sait rien. Mais c'est un thème qui est représenté. Ça, c'est Cougnac, pas très loin d'ici. Vous voyez également cet homme qui est percé de flèches. Et celui-ci aussi, c'est Cougnac. Vous voyez, il a le bas du corps transpercé par des flèches. Alors, on le retrouve, donc ça c'est pas loin d'ici, mais on retrouve le thème de l'homme mort à Cosquer, à Marseille, où vous avez la tête de cet homme. Et vous voyez, les traits qui sont là sont identiques aux traits qu'on a sur les représentations de phoque. C'est un homme à tête de phoque qui est représenté sur le dos, l'épaule, hein, le dos, la fesse, une jambe à l'air ici, hein. Le ventre, un bras levé avec les seins noirs et la poitrine. Et il est transpercé par une espèce d'énorme harpon. Donc, on l'appelait l'homme tué. Voilà pourquoi les détails, on ne les saura jamais. Hein. Il est évident que les détails de ces représentations sont tout à fait hors de notre portée. Moi, chaque fois que j'ai eu des détails pour, par exemple, en Inde, hein, où je travaille actuellement, des détails pour des représentations, c'est d'une complexité inouïe. C'est impossible de les inventer, enfin, de les retrouver. Si on ne vous le raconte pas, c'est impossible. Et dernièrement, on a publié un livre là, avec ma collègue, qui est sorti au mois d'octobre, qui s'appelle « Des images pour les dieux », parce que c'est ça, hein, c'est « Des images pour les dieux ». Mais au mois de novembre, on a fait une découverte. Enfin, moi, j'ai fait une découverte, parce qu'elle était au courant, mais elle ne faisait pas attention. On est allé dans un village, et c'était le lendemain d'une fête qui s'appelle Diwali, qui est la grande fête indienne. Diwali, c'est comme Noël, si vous voulez, chez nous. C'est la grande fête indienne. Bon. Donc, pour cette fête, il y a des festivités pendant quasiment une semaine. Et le lendemain de Diwali, dans certains villages du centre de l'Inde, ils rendent hommage à leurs vaches. Alors, c'est très important, parce que vous savez que les vaches sont sacrées en Inde. Donc, on ne les mange pas. Mais on boit leur lait, elles fabriquent des veaux, on s'en sert pour tirer les charrettes, les charrues, etc. Vous voyez, avec le lait, on fait du beurre et du fromage. Donc, et elle fabrique quelque chose de très important. C'est le purin, c'est le fumier. Parce que les bouses de vache, on les fait sécher. Sur les toits, on envoie des quantités. Et quand c'est sec, on s'en sert comme combustible. Parce que le bois est rare. Et on peut les mélanger également avec de l'eau Et à ce moment-là, on s'en sert comme plâtre dans les maisons pour faire du plâtre. Et ça marche très, très bien. Hein, et ça ne sent pas mauvais ni rien. Donc, la vache est très utile aux gens. Alors, il y a un principe en Inde qu'on appelle le principe du manta, qui est tu me donnes quelque chose, je te dois quelque chose en échange. Je te donne quelque chose, sinon on perd la face. Donc, la vache leur donne beaucoup de choses. En échange, principe du manta, le lendemain de Diwali, ils font plusieurs choses. Ils peuvent peindre des vaches, par exemple, sur les étables, sur les murs des étables, j'ai vu ça. Ils peignent très souvent la vache elle-même. Ils lui peignent les cornes, en bleu, en rouge, en blanc, quelquefois avec plusieurs couleurs. Ils peignent des motifs sur le corps de la vache, y compris des mains. Des mains négatives, des mains positives. Alors ça m'a rappelé évidemment les grottes. Hein. Vous voyez une vache avec ses mains positives sur le corps. Bon. Et ils font autre chose, alors là, qui est très intéressant, c'est que, je le mettrai dans un prochain livre, c'est que ils fabriquent des sculptures en bouse de vache. Et alors, comme nous, on est arrivé le surlendemain, donc les gens, ils nous ont expliqué. Et moi, j'ai vu ça dans une dizaine de maisons différentes. J'ai fait toutes les photos que j'ai voulu. Et alors, c'était la première fois qu'un occidental s'intéressait. Donc, ils nous ont dit de donner tous les détails et rigoler. Au contraire, il fallait qu'on parte, quoi, au bout d'un moment. Parce que, bon. Et c'est les femmes qui le font. C'est jamais les hommes. C'est les femmes qui font ces sculptures. C'est la maîtresse de maison, donc. Hein, avec les bouses de vache. Et ces sculptures, ça représente un homme, chaque fois. Et on fait des cérémonies, il y a un petit feu à côté, on plante par exemple des plumes de pin sur la sculpture, on la saupoudre avec des pétales de fleurs, etc. Enfin, il y a toute une cérémonie en hommage aux vaches, et on a eu tous les détails de l'histoire, qui est une histoire très très compliquée. Hein. C'est d'un homme qui a sauvé le monde, etc. Enfin, bon, c'est une histoire qui est très très compliquée. Pour vous dire en quoi ça se rapporte à l'art préhistorique, c'est que dans une autre maison, j'ai vu deux sculptures côte à côte, les mêmes. C'était les mêmes. Même détail, même feu, même tout était pareil, sauf qu'il y en avait deux. Alors j'ai dit, tiens, pourquoi il y en a deux? On est curieux, hein, en tant que scientifique. Alors j'ai posé la question avec ma collègue qui, elle, parlait hindi, bien sûr, et dit, mais demande-leur pourquoi il y en a deux. Alors elle posait la question, ah, mais ça n'a rien à voir. Parce que ça, celles-là, les deux, on ne les a pas fait le lendemain de Diwali. On les a fait le surlendemain. Et donc, ça a un sens complètement différent. Et c'était une histoire de deux frères qui étaient des dieux. Et ils avaient une sœur, ils n'allaient jamais la voir. Alors, la sœur se vexait. Alors, finalement, à force de supplication, ils sont venus voir la sœur parce qu'ils avaient peur. Ils étaient tellement puissants. Il y avait le dieu de la mort, entre autres. Que s'ils allaient voir sa sœur mourrait. Et puis finalement, ils sont allés voir sa sœur, ils ont fait certaines cérémonies, la sœur n'est pas morte. Et depuis, il reste une tradition, c'est que ce jour-là, les frères vont voir leur sœur. Vous voyez, quand ils n'habitent pas dans le même coin. Donc, moi, ça me fait penser à l'art préhistorique. Vous prenez Fond de Gomme, mettons. Comme il y a de bisons à Fond de Gomme. Peut-être que, nous, on dit, il y a tant de bisons. On fait pourcentage, les chevaux, les bisons, etc. Mais peut-être que s'il y en a un qui a été fait le lendemain de l'autre, il a un sens complètement différent. Vous voyez comment ça relativise ce qu'on peut dire sur l'art préhistorique. Alors ça, je prends quelques comparaisons ailleurs. Ici, on est en Baja California, au Mexique, et on a des cerfs qui bondissent, et on a ces humains, ici, qui ont les bras levés. Alors ça, ce sont des cultures chamaniques. Hein. Et là, on sait ce que ça veut dire, parce qu'au XVIIe siècle, il y a eu des missionnaires qui sont allés et qui ont parlé, qui ont raconté. Ils n'ont pas raconté pour faire de l'ethnologie. Hein. Oh, ces pauvres Indiens, qu'est-ce qu'ils vont croire? Ils croient ci, ils croient ça, etc. Pour se moquer d'eux, quoi. Mais pour nous, c'est drôlement intéressant. Et on sait que ça représente des morts. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont toujours figés. Ça représente des morts. Et dans ces cultures-là, les morts deviennent des dieux. Alors ça, on est en Afrique du Sud. Et on a un chaman ici à tête animale. Hein, Et à côté, on a un élan, ce n'est pas une vache, c'est un élan qui a les poils hérissés parce qu'il meurt, il plie les genoux. Et la mort, comme je vous l'ai dit, c'est la métaphore pour la transe. Et ça veut dire que le chaman est qui touche cet animal en train de mourir. Ça représente la transe. Ça représente la transe du chaman. Ça a été publié par mon collègue Lewis Williams. Alors là, on est aux États-Unis, dans le sud du Texas. C'est ce qu'on appelle la Pecos River, la rivière Pecos, qui, avec des cultures chamaniques pour lesquelles aussi on a tous les détails. Et on a ces chamans percés de flèches, vous voyez, ça me rappelle quelque chose, hein, percés de flèches et qui sont très allongés parce que ça représente l'envol chamanique. Et ce que vous avez ici, là, c'est le peyote. Le peyote, c'est une drogue. C'est une plante dont se servent actuellement les Indiens Huichols du Mexique pour entrer en transe. Là, on est à la grotte de Nio. Alors là, il y a des points, des traits, etc. Ce qu'on appelle le signe optique, c'est-à-dire que pendant les visions chamaniques, on voit des points, des traits, etc. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est ça ou autre chose? On n'est pas sûr, hein. Mais ce n'est pas du tout impossible. C'est l'hypothèse qu'avait avancée Louise Williams, mais on n'en est pas sûr. Alors, voilà d'autres types de points dans une grotte espagnole qui s'appelle Peña de Candamo, dont on célèbre le centenaire de la découverte cette année. Derrière, vous avez là des grands rocs peints en jaune. Et vous voyez que des points, des traits et des symboles de ce genre, il y en a beaucoup. Ça, c'est la grotte du Castillo en Espagne. Celle-là aussi. Alors, ces points sont rassemblés un symbole complexe, mais évidemment, on ne connaît pas les détails. Alors, vous voyez, on en retrouve d'autres, là, hein, avec une main négative. Mais là, on n'est plus dans les grottes espagnoles ou françaises. C'est pour vous montrer à quel point ça, c'est absolument ubiquiste. Là, nous sommes dans le sud de l'Argentine, en Patagonie. C'est une photo que j'ai faite il y a un certain nombre d'années, en Patagonie, où on a des points et on a des mains négatives, exactement comme dans nos grottes. Et là, on est en Arizona, vous voyez, et en Californie, on est là. Et ce petit abri servait de lieu pour les recherches de vision des chamans. Les chamans s'isolaient, ils allaient là pour avoir des visions. Alors, généralement, et là, on a eu des témoignages aussi, généralement, ils le faisaient en jeûnant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas nécessairement des drogues, mais ils ne mangeaient pas pendant 2-3 jours jusqu'à ce que la vision leur vienne. Alors, voilà un autre. Hein. Alors là, on a des cercles et on a un grand serpent dans ce lieu de recherche des visions qui est en Californie. Bon, alors maintenant, l'utilisation des contours naturels. Alors, voilà un, c'est un oiseau, hein, mais tout ça, c'est naturel. Il n'y a que quelques gravures, l'œil. Vous voyez quelques traits ici et là. C'est une grotte qui s'appelle Alcheri, qui est dans le nord-ouest de l'Espagne, dans le Pays basque espagnol. Alors, quelques... Vous voyez cet oiseau-là, qui est peu connu. Hein. Ce qui a été peint, c'est l'œil et les pattes. Tout le reste, c'est naturel. Ça, c'est dans la grotte de la Pileta, en Espagne. Et ça, c'est Cugnac. Hein. Alors, ça, c'est Papin. Hein, donc, c'est naturel. Ils ont dessiné la tête d'un cerf, un grand cerf mégacéros avec la bosse. Vous voyez, les pattes, il n'y a que ça qui est peint pour la patte. Mais on voit très bien le poitrail et la patte. Et ça, c'est Altamira, en Espagne, hein, où ils ont dessiné ce bison au plafond dans un contour naturel. Vous voyez les cornes. Hein, un bison tout à fait recroquevillé sur lui-même dans un contour naturel de la paroi. Toujours Altamira. Ça, c'est assez extraordinaire. J'y suis allé pour le voir parce que ça m'avait titillé, que je m'étais posé la question. Et ce qui est... On voit très bien deux yeux, le nez, la bouche, hein, d'un personnage, là. En fait, la seule chose qui soit peinte, c'est l'œil. Ça, c'est naturel. C'est un creux naturel. Hein, et ça, évidemment, c'est naturel. Et la fissure naturelle. Donc, celui ou celle qui a vu ça a dessiné l'œil et un peu de noir ici, vous voyez, pour marquer le nez et la bouche. C'est dans une petite galerie d'Altamira. Alors ça, c'est au Castille aussi, ce contour naturel. Même chose, hein, l'œil a été dessiné et le nez. Et on voit très très bien un animal, comme si l'animal préexistait dans la roche. Et en le dessinant, on le matérialise, on entre en contact avec lui, on capte son pouvoir. Alors ça, c'est peut-être encore plus extraordinaire, c'est à Nio, c'est la grotte de Nio, dans l'Ariège, mais dans la partie qui n'est pas ouverte au public. Et il y a une tête de cheval, mais à l'envers. Vous allez me dire, il faut être vicieux hein, pour voir si je puis dire. Là, vous avez la crinière, vous voyez, là, il y a eu dos. La tête est ici. Il faut le voir comme ça, c'est à l'envers. Ça vous montre à quel point il recherchait ce genre de choses. Parce que pour voir ça, il faut vraiment avoir l'esprit tout à fait préparé. Alors là, ça, c'est moi qui l'ai trouvé, parce que on a un grand cheval ici, c'est Grotte de Nio, hein. Et là, on a deux traits convergents. Bon, j'ai publié un livre sur la Grotte de Nio il y a, je sais pas, 20 ans à peu près. Et j'avais dit, il y a deux traits convergents. Et puis un beau jour, je montrais ça à des collègues, et tout d'un coup, je me dis, ah ben mince, parce que je l'ai éclairé d'une certaine façon. Je dis, mais il y a une tête. La tête, elle est naturelle, c'est ça. Vous voyez ? Et le poitrail. Quelqu'un a vu, un des Magdaléniens, a vu un bouquetin avec la tête et le poitrail. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dessiné, et la ligne de dos peut-être, il a dessiné les cornes. C'est tout. Et ça, c'est tout à fait typique. Hein. Et moi, j'ai découvert ça, ça devait être en 2001-2002. Alors, depuis, j'ai fait un autre livre sur la grotte de Nio, et évidemment, je l'y ai mis. Alors, ça, c'est à Chauvet, la grotte de Chauvet. Ce qui est peint, c'est le poitrail de ce bouquetin, le ventre, le sexe et la patte arrière. Le reste est naturel. Vous avez ça, c'est naturel. Oui. Vous avez la ligne de dos qui a été en partie peinte, mais cette ligne-là, et la queue, c'est naturel. Donc, ils ont vu le bouquetin, ils l'ont complété, et donc, ils ont capté son pouvoir. Toujours la grotte Chauvet. On a un mammouth ici. Alors, ce qui est peint, c'est l'arrière-train, la queue et la patte arrière. Mais vous avez le ventre, vous avez la bosse ici, et même la trompe, qui sont naturelles à ce mammouth. Alors, ça, c'est à la grotte du Castillo. Vous voyez, voilà ce qu'on voit. Hein, quand on le voit naturellement, on voit ça. Mais ça, ça a été travaillé pour en faire une tête de bison. Vous voyez, qu'on voit bien mieux ici. Hein, mon collègue vous donne l'échelle. Voilà la tête de bison. Vous voyez, on voit très bien un bison là. Hein. Et alors, si vous mettez une lumière ici, ça projette l'ombre sur la paroi d'en face. C'est un de mes collègues qui a trouvé ça il y a quelques années. Margot Hélène, qui fait une monographie sur la grotte du Castillo. Et si on projette l'ombre, voilà ce qu'on voit. On voit ça sur la paroi et on voit un bison. Bon, très bien. Un bison vertical. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette paroi, il y avait un trait rouge ici, qu'on voit en partie, c'est sombre là, hein, et deux autres traits rouges là. Et en projetant l'ombre, on comprend. Parce que celui-là, il fait la queue, et celui-là, ils font les pattes. Et ça, on ne comprenait pas du tout. Ça fait plus de 100 ans que ça a été trouvé. On ne comprenait pas du tout. Quand il a projeté l'ombre, ah ben là, on comprend. Les types, ils ont fait ça, et ils ont complété en rajoutant la queue et les pattes. Alors maintenant, les animaux qui sortent des fonds de paroi, comme ce rhinocéros à la grotte Chauvet, ou... ici, on a ce bison, vous voyez, qui a l'air de sortir de la paroi. En fait, ils n'en ont dessiné qu'une partie, que l'avant-trait. Le reste, c'est absolument naturel. Ça, c'est chauvé également. Ou ce bouquetin, vous voyez, une corne ici, l'autre corne là, le corps, la tête, la patte avant. On a l'impression qu'il sort du trou. On a des quantités, je vous en montre quelques-uns, mais on en a des quantités. Alors, les mains négatives, ça c'est la grotte de Gargasse, les mains négatives, partout où on a des témoignages, mettre la main, c'est entrer en contact à travers la peinture avec les puissances surnaturelles qui se trouve derrière la paroi. Alors, quelquefois, les gens touchaient la paroi, comme ici, vous voyez, ils ont fait des dessins, c'est la grotte Chauvet, hein, et ils ont passé leurs mains, ce qui a laissé des traces. Alors, moi, j'ai vu ça, hein, une fois, j'étais au Mexique, au nord du Mexique, c'était en Arizona, tout à fait dans le sud de l'Arizona, et il y avait une église mexicaine, j'étais allé la visiter, parce que c'est une église qui était assez ancienne, et il y avait une relique en bois, c'est un saint quelconque, je sais pas, un saint, bon. Et devant moi, il y avait une famille mexicaine, il y avait le père, la mère et deux gosses. Et je comprends l'espagnol, et je le parle. Et devant moi, la mère a dit aux gosses de toucher les bords là, de la statue, parce que ça portait bonheur. Vous voyez, c'est exactement ce geste-là, hein. On capte le pouvoir surnaturel. Et à ces gosses, ils touchaient ça. C'est pour ça que dans beaucoup de cathédrales ou d'églises médiévales, les statues ont l'air polies, parce que les gens, ils les touchent. C'est un geste éternel, ça. Alors, là, bon, là, il y en a beaucoup. Vous voyez, ça, c'est la grotte Kosker, où ils avaient raclé la paroi. Et quelquefois, ils plantaient des petits bouts d'os dans les fissures. Ces bouts d'os, ils n'ont rien de spécial. Et on en voit ici, voilà. On l'a trouvé depuis que nous l'avons signalé, ça avec Robert Bégoin. C'est Robert Bégoin qui l'a trouvé en premier, ça. Il m'en avait parlé, on avait fait un article en 1981. Et depuis, ça l'est trouvé dans une bonne vingtaine de grottes en France et en Espagne. Alors voilà d'autres, vous voyez, bon. C'est-à-dire planter les petits bouts d'os dans la paroi. Bon, et je termine avec, je vous l'avais dit, quelques chamans sibériens. Alors, en voilà un ici, vous voyez, qui est en partie habillé en chaman, et on peut voir qu'il chamanise avec des gravures rupestres. Ça, c'est une photo qu'on m'a passée, mais ce n'est pas moi qui l'ai faite. Alors, en voilà un autre. Alors, vous voyez qu'il est en train de chamaniser. Il touche la paroi, vous voyez, comme on l'a déjà vu. Et les gravures préhistoriques sont là. Hein. Alors, le chaman avec qui j'ai travaillé, c'est lui. Et là, il se prépare, il se purifie avant la cérémonie avec du feu. Alors, vous voyez, il y a les flammes. Hein, et je vous assure, c'est des vraies photos. Je ne me suis pas amusé avec Photoshop. Hein, mais il ne s'est pas brûlé. Moi, je me rappelle, le lendemain, il rigolait, hein, parce que ce n'est pas parce qu'il est chaman qu'il ne rigole pas. Hein, il aimait bien rigoler. Il m'a montré, c'est vrai, il était tout content. Il n'était pas brûlé. Et alors là, voilà, ce sont les dernières. Ici, ils préparent la cérémonie. Et là, il y avait des villageois d'un village voisin, d'un village de pêcheurs. Et ils préparent la cérémonie. Vous voyez, là, il est en grand habit. Hein, et il fait du feu. Il a mené des bûchettes. Et à l'intérieur, ici, il y a les offrandes pour les esprits. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était une espèce de monticule au milieu de la taïga, de rien du tout. Hein. Et il y avait des cupules. Ça, c'est des cupules préhistoriques, il n'y a aucun doute. Hein. Alors, je lui ai posé la question. Et il faisait... Regardez, il était un mètre. Alors, je lui ai posé la question des cupules. Et j'étais un peu déçu, parce qu'il m'a dit, lui, ça ne lui disait rien du tout. Vraiment, ces cupules, ça ne lui disait rien, il n'était pas au courant. Mais il n'empêche que ce n'était pas la première cérémonie qu'il faisait. Hein, il le fait à un endroit où il y a des cupules préhistoriques. Donc, il doit y avoir une très, très longue tradition culturelle. Ces cupules n'ont d'ailleurs jamais été publiées. Quoi. Elles sont là, personne ne s'en est jamais occupé. Et alors là, il est en plein... C'est sûr, au même endroit. Hein. D'ailleurs, vous voyez ça, c'est ça. Hein, dont les cupules sont par là. Hein. Et ça n'a pas été préparé. Hein. Moi, j'aurais enlevé le plastique. Non, parce que le plastique, à quoi ça servait? Ça servit à mener les offrandes. Vous comprenez? Le fromage, le jambon, etc. Et alors là, il y a le feu. Et alors, regardez ce feu. On voit deux yeux, une tête. Hein, et alors, j'ai plusieurs photos comme ça. Alors, on lui a montré ces photos. Ben, lui, ouais, c'est les esprits, quoi. Vous voyez, pour lui, c'était... Pour nous, qui sommes un peu sceptiques, et même beaucoup, ça a été étonnant. Mais en fait, c'est comme ça. Hein. Voilà. Alors, je voulais terminer sur ces images de chamans modernes. Vous voyez qu'il y a son tambour. Là, il est en train de chamaniser. Hein. C'est-à-dire, il joue du tambour, il chante, il tourne autour des gens. Si quelqu'un a un souhait particulier, il va tourner particulièrement autour de lui. Donc là, il chamanise. Et il y a le feu qui participe évidemment à la cérémonie. Donc c'est un chaman traditionnel. Je lui ai posé la question. Hein. Son grand-père était chaman et il me disait que pendant toute la répression soviétique, parce que les chamans, ils allaient au goulag, hein, et au mieux. Et pendant toute la répression soviétique, ils avaient caché les tambours et les choses sacrées dans une grotte qui n'était pas très loin de chez eux. Et après, quand les choses se sont améliorées, il y a 20-25 ans, et bien, ils les ont ressortis. Et lui, il est devenu chaman. Voilà, très rapidement résumé, ce que je voulais vous dire sur le chamanisme. Vous aurez sans doute des questions. Je vous remercie.